Alors, c'est une autre ouverture. Chacun ouvre, comme on avait dit, chacun ouvre avec un autre ouvre-boîte. Lui, il amène lui aussi un pasouk dans Tehilim, comme Rabbi Yoshua Sifnin, mais ce n'est pas le même. Bonsoir. Rabbi Tanchuma. Donc c'est celui dont on connaît par ailleurs, il y a un midrash qui porte son nom, parce qu'il a beaucoup produit. Ou Patar, lui il a ouvert comme ça. Dans le pasouk, c'est marqué dans Tehilim, « Ki gadol ata veose niflaot » car tu es grand et tu fais des choses extraordinaires. « Télé », ça veut dire quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose de surprenant, de ça, c'est comme fendre la mer ou des choses comme ça. Amar, vous avez dans la traduction, ils ont mis la totalité du verset, le Midrash ici seulement une partie du verset. Amar Rav Tanchum, Hanodazé, cette outre-là, il y a une outre. Imiyebo Nekev, Kuchol Shel Machat.
Mais ça, c'est quelqu'un d'autre, hein, parce qu'il dit dire de Rabbi Tanchum Bariya, c'est un autre alors.
Un autre que qui?
Ouverture de Rabbi Tanchuma, c'est le premier. Ce que vous avez venez de dire maintenant.
Oui.
Et là, il y a écrit après dans la traduction, dire de Rabbi Tanchuma.
Amar Rav Tanchum?
Bariya. Est-ce que
moi, j'ai pas. J'ai, ah. Je n'ai pas. Parce qu'il y a des versions différentes. Alors peut-être, effectivement, il aurait ce Rav Tanchum. Je ne sais pas si...
Non, c'était juste pour savoir si c'était... Parce que je ne comprenais pas, je sais. Comme il n'avait pas le même nom, je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou est-ce que...
Là,
est-ce que
c'est... Ça s'appelle Bariya.
Ah oui. Bon, c'est pas...
Bon, moi, j'ai dans l'édition, vous avez...
Oui,
chez vous aussi.
Oui, on l'a aussi, oui.
Il y a aussi Bariya.
Oui.
Lui, il a donc... Ça, ouais, il a des... C'est des manuscrits différents.
Moi, je n'ai pas Bariya.
Non, moi non plus. Ça, c'est la vieille, c'est l'édition standard, je crois. Ça, c'est une édition plus ou moins, un peu plus scientifique, quoi, avec d'autres manuscrits.
C'est-à-dire que c'est pas le même, c'est
une question. Alors, on ne sait pas sur Atanchuma. Est-ce que c'est lui aussi, mais. Bon, c'est un peu étonnant que Rav Tanchuma, il cite. Enfin, d'un autre côté, il se cite lui-même en donnant. Son nom, c'est un peu surprenant. Bon, je sais pas, pour l'instant, on verra si ça fait une différence dans l'explication. Amar Rav Tanchum, Hanod Azé, cet outre-là, Im Yebo Nekev, que Chod Shel Machat, Kol Rucho Yotse Menu. Cet outre, elle est pleine d'air. S'il y a le moindre trou, même un petit trou, la pointe d'une aiguille, tout l'air va sortir de cet outre. Veha Adam et l'homme, Asui, Mechilim, Mechilim, Nekavim, Nekavim, des cavités, des trous, Vein Rucho Yotsemenu, et son souffle ne sort pas de lui. Miya Seken, qui est-ce qui fera une chose pareille? La réponse, elle est dans la suite du verset. Ata Elohim Levadecha. Toi, Elohim, tu es seul à pouvoir le faire. En d'autres termes, il a mis en scène le verset dans Tehilim, d'accord, en disant qu'Hachem fait des choses extraordinaires. Quelle chose extraordinaire fait-il? Ben, il fait que normalement le souffle là il devrait nous quitter et il ne nous quitte pas. Il n'y a que toi qui fais ça. Alors, il y a là, on va voir, est-ce qu'il y a un lien, mais je vais lire tout le paragraphe et on verra après. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Bécheni, le deuxième jour, Nivraou à Malachim. Les Malachim, ici ça veut dire les anges, ont été créés le deuxième jour. Adaou Dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le verset, qui dit, le verset dit, Amkare Bamaim Aliotav, etc. Et c'est aussi marqué, Ose Malachav Ruchot, ici il fait donc ces anges qui sont des souffles, des. Rav Chanina Amar, Bechamishi Nivraou, Malachim. Rav Chanina, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il dit non, les Malachim, ils ont été créés le cinquième jour. Adaou Dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le verset, Veof Yofef Ala Aretz. Et les oiseaux vont voler, les volatiles vont voler au-dessus de la terre. Urtiv, Ubishtaim Yofef. Et dans le passage des Shao qui décrit les anges, il dit que les anges, ils ont trois paires d'ailes. Avec deux ailes, avec une paire, ils volent. Avec une autre paire, ils se couvrent le corps et les autres sur les pieds. Donc, en tout cas, il dit, il y a deux paires d'ailes qui servent à voler. Rav Luliani Bar Tavrin, Amar Beshem Rabbi Tzrak, Ben Al Daate de Rav Chanina. Que ce soit d'après Rav Chanina. Ben al daté de Rabbi Yochanan, ou que ce soit d'après Rabbi Yochanan, à kol modim shelo nivra biyom rishon klum. Tous sont d'accord que le premier jour rien n'a été créé. Shelo yomru, pour qu'on ne puisse pas dire, Michael aya moteach bidromo shel rakia, et Gabriel bitzfono, pour qu'on ne puisse pas dire que le malarque Michael, il était étendu, si vous voulez, au sud du firmament, et Gabriel au nord. Akadosh Baruch Hu memaded beemtsao, et Akadosh Baruch Hu serait là au milieu. Et là, Anochi Hashem osse kol, donc toujours un teilim. Non, ça c'est Yeshayahu. Moi, Hachem, Osekol, je fais tout. Noté Shamaim va dire, moi seul, j'étends les cieux, etc. Meiti, c'est tout ça à partir de moi. Meiti, c'est-à-dire, il ne faut pas dire Meiti, de moi, mais Meiti, qui était avec moi. Mi, qui, iti, avec moi. Bon. Donc, mi iti ktiv. Mi haya shutaf imi, qui était associé à moi, et briato shel olam, lors de la création du monde. Davar acher, autre chose, sur le même verset, ki gadol ata veose niflaot, le même verset de Tehilim avec lequel on a commencé. Be noheg sheba olam, l'ordre du monde est tel que Melech Basar Vadam, un roi de chair et de sang, mitkales bamdina, il est loué dans son pays. Ugdolei medina mitkalsim imo, et les grands personnages, les princes, si vous voulez, ils sont loués en même temps que lui. Shenosim imo bemasao, parce que il porte avec lui la charge. Aval Akadosh Baruch Hu enoken. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Elahu levado bara et haolam, lui seul a créé le monde. Sous-entendu, il était seul à créer le monde. Ou levado mitkales baolam, il est seul à être loué dans le monde. Ou levado mitader beolamo, il est seul, on va voir, mitader c'est lachon hidur, où il se. Oui, il peut se. Être fier de son monde, on va voir, on va traduire mieux après. Amar Rabtam Chouma, ki gadol ata veose niflaot. Là-dessus, Rabtam Chouma dit. Voilà, je l'ai oublié de nouveau. Gadol ata veose niflaot, lama, ki ata elokim levadecha. Ata levadcha barata et olam. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Gadol ata veose niflaot, tu es grand et tu fais des choses extraordinaires. Qu'est-ce que, pourquoi c'est dit là? Parce que tu es Elohim, tu es seul Elohim. Ata levadcha barata et olam. Tu es seul à avoir créé le monde. Qu'est-ce que toute cette histoire a à voir là? Bon, il parle de la création du monde, on est d'accord. Mais c'est quoi là? Alors, on va en finir avec eux là. D'abord. Là. Je vous pose sur la table. Bien, alors on est au numéro 3. Alors on a vu donc cette première partie qui met l'accent sur la création de l'homme d'abord. D'accord ? Au début, l'extraordinaire c'est la création de l'homme. Il dit l'homme étant donné qu'il y a du souffle dans l'homme et qu'il a plein de creux et de trous. Normalement, si on comparait ça à une outre, de même que l'outre, tout son air va être vidé, ou s'il était plein de n'importe quoi, ce serait vidé. Et là, l'homme, lui, il ne se vide pas, il est ça l'extraordinaire. C'est-à-dire, quelque part, il a créé un homme avec un principe de physique, si vous voulez, pratiquement, qui est contredit par la création de l'homme. Il y a un principe de physique qui dit que quand tu fais un trou dans une outre, ben, le contenu de l'outre s'en va. Et là, il y a des trous dans l'homme. Il a bien l'air d'être une outre. On a insufflé du souffle, sa respiration dans l'homme. Et cette respiration divine en l'homme, elle ne s'en va pas. Ce souffle ne s'en va pas. Donc ça, c'est la chose extraordinaire. Et c'est toi qui fais ça. C'est toi, Hachem, qui fais ça. Puis ensuite, comme un cheveu sur la soupe, hein, pratiquement, la question de savoir quand on a créé les anges. Alors, la même chose, il y a une marloquette, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, s'ils ont été créés le deuxième ou le cinquième jour. Alors, quand on parle de. Des anges, Rabbi Yochanan, il amène un pasouk, toujours dans Tehilim, et ensuite il a besoin d'amener un deuxième pasouk, donc dans lequel on voit que Ose Malachav Ruchot, il fait de ses anges des souffles, des esprits, quelque chose comme ça. Donc là, tout à coup, on parle aussi de. Il y a d'autres créatures qui sont aussi pleines de souffle, quoi, en quelque sorte. Il n'y a pas seulement l'homme. Ça, c'est pour lui, pour Rabbi Yochanan. Et puis pour Rabbi Hanina, ils sont le cinquième jour, on verra. Parce que, en fait, le cinquième jour, c'est la création de ce qui vole, d'animaux qui volent. Et comme eux, ils volent, on voit du pasouk dans Yeshaya que les anges, ils ont des ailes pour voler. Et donc, c'est ça l'assimilation. Pour cette raison-là, puisque ce sont des volatiles, enfin des volants, disons plutôt, ils ont été créés le jour où on a créé ce qui vole. Et alors maintenant, De la même manière, curieusement, les Malachim, eux, ils ont été créés le deuxième jour pour Rabbi Yochanan. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour? Il n'a pas l'air de dire, en fait, ce qui va se passer dans le deuxième jour, c'est le firmament, en quelque sorte, cette espèce d'étendue qui va partager l'univers en deux, entre ce qui est au-dessus du firmament, au-dessus de cette étendue qu'on appelle le firmament, quoi, ou est-ce qu'est en dessous, c'est-à-dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et donc on parle de cela, et donc quelque part, du coup, les malachim, pour quelle raison est-ce que les malachim devraient être créés ce jour-là? Parce que ce jour-là, il y a une différence entre le haut et le bas. On a créé la notion de haut et de bas, en fait. Mais ça passe encore clair, non plus. Hein. Pour l'instant, je regarde les grossièrement. Alors, ensuite arrive ce Rav Luliani, en italien, je pense. Et il dit, il parle au nom d'un certain Rabbi Tzrak. Il dit, ben, finalement, que ce soit l'un ou l'autre, Rabbi Yochanan ou Rabbi Hanina, tout le monde est d'accord, en tout cas, que le premier jour, rien n'a été créé.
Ouais, ça,
ben, puisque l'un dit c'était le deuxième,
ouais.
Et l'autre dit c'est le cinquième,
ouais,
et semble-t-il les malachim, ça doit être d'une certaine manière ce qu'on peut imaginer de premièrement créé. Alors d'abord il y a Abraham qui dit non, c'est pas les premiers, puis même celui qui dit que ça serait les premiers, ben, ils ont été créés le deuxième jour et pas le premier. Donc, du coup,
c'est
le premier jour.
Il ramène le premier, parce que j'allais dire, mais pourquoi il pourrait dire le troisième et le quatrième aussi alors.
Non, non, mais on veut savoir, oui, ce qui nous intéresse, c'est au début, on veut au début de la création. Et pourquoi est-ce que, effectivement, ils n'auraient pas été créés, on ne pouvait pas créer les anges le premier jour, disons? Parce que sinon, on aurait dit que, quelque part, ici, il y a deux anges qui jouent un rôle particulier, Michael, Gabriel, qui seraient l'un au nord et l'autre au sud, enfin, l'un au sud, bon, plus directement, et l'autre au nord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup au milieu. Et donc, ce serait faux de penser une chose pareille. Si on les avait créés, ils se seraient partagés le monde quelque part. On a l'impression que comme ils sont deux, automatiquement le monde se serait partagé. On voit très bien qu'il y a une notion de partage du monde avec le firmament qui partage les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et si les anges avaient été créés, ben, ils se seraient partagés le monde. Un aurait pris l'hémisphère sud et l'autre l'hémisphère nord.
S'ils avaient été créés le premier jour.
S'ils avaient été créés au tout début, ce serait UHM au milieu et puis eux, ils se seraient étendus. Pour l'instant, on ne comprend rien, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez peut-être quelque chose, mais on ne voit pas très bien où on va. Et alors on dit, ben c'est faux, parce qu'Hachem, justement, il dit, c'est moi qui fais tout. Ça veut dire, en fait, si eux avaient été là au début, on aurait eu l'impression qu'ils participent à la création. D'accord? Parce que Hachem aurait été au milieu, quelque part, et puis l'extension, elle se serait faite avec Michael et Gabriel. Or, Hachem dit, l'important, c'est... le Midrash a l'air de dire ici, ce qui est important, c'est de savoir que Hachem a tout fait tout seul. Alors d'abord, on dit d'Hachem, sa grandeur, c'est qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne répond pas, n'obéit pas aux règles que nous on connaît de fonctionnement du monde. Et puis là, sur ce même verset de « Tu es grand et tu fais des choses extraordinaires », alors c'est ça, c'est l'image, c'est le roi en vérité, comme on avait déjà vu un peu avant. Le roi en fait, il est aidé par les princes, par les gens qui sont autour de lui, il ne fait pas tout seul. Et du coup, la louange ne peut pas s'adresser qu'au roi, puisque les autres ont participé aussi. Donc quand on fait la louange d'Hachem, du roi, pardon, alors on doit faire en même temps la louange des assistants, des associés plutôt. Donc, finalement, on a l'impression, dans le résumé de nouveau par ce Rav Tam Krouma qui a commencé et qui termine ce numéro-là, numéro 3, d'accord, qu'est-ce qui est important ? Ata Elokim Levadecha, Ata Levadcha Barata et Taola. C'est comme si il faut mettre l'accent sur le fait que c'est Hachem seul qui a créé le monde. C'est ça le point important, semble-t-il. Il a créé le monde, il a créé du deux dans le monde, le haut, le bas, Michael, Gabriel, etc. Mais tout ça, c'est après. C'est lui qui l'a créé. Et la création elle-même, c'est le premier jour. Et le premier jour de la création, Hachem est tout seul. Il fait tout seul. Ça, c'est, disons, le...
Même si on aurait pu considérer, et c'est forcément le cas, que c'est Hachem qui crée les anges aussi.
Oui, bien sûr. Non, justement, c'est ça. On aurait pu penser que, oui, il a créé des anges qui l'ont aidé à créer le monde, comme si...
Comme, par exemple, il avait fait, comme vous avez
pour la
fait,
Torah.
Voilà.
Comme si, comme on a dit, pourquoi est-ce qu'il a passé par la Torah pour créer le monde ? D'accord, mais il aurait pu passer par les anges qu'il aura créés, puis ensuite, ils vont l'aider à créer le monde.
J'entends ça différemment de ça, parce que si on prend le récit de la suite, pourquoi ils ont besoin de repréciser ça? Parce que,
quoi ça?
Bah justement, que Hachem a créé le monde par lui-même.
Tout seul.
Voilà. C'est pas.
Il part sur le verset qui dit Bereshit bara Elohim. Alors, quelque part, est-ce qu'il y a dans cette phrase une ambiguïté qu'il faut lever ?
C'est le terme Elohim au pluriel.
Ben oui, mais dans le verset, c'est pas beaucoup mieux, puisque le verset dit Kiata Elohim Evadecha. Pardon ? En plus, il y a le verbe au singulier. Bara est au singulier. Alors, sur la question qu'on s'était posée, est-ce que c'est ce Rabbi Tanhum Bar Chia et Rabbi Tanhuma? Alors, peut-être, Rabbi Tanhuma, il a commencé avec ce verset, mais tout de suite, il y a un autre Tanhum, probablement, qui lui a expliqué ce qu'on a vu ici, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et comme ça, c'est la lecture de Rabbi Tanhuma, c'est toujours ce verset, car tu es grand et tu fais l'exception. En quoi tu as créé le monde tout seul?
En quoi
tu as créé le monde tout seul? C'est ce qui est dit tout à la fin, à la page 36, donc, à la fin de ce numéro 3. Vous voyez? Alors peut-être que c'est une façon de dire le Rabbi Tanhum Bar Chia, lui il a une autre lecture de ce même verset. Il va expliquer que l'extraordinaire, ce que tu fais l'exceptionnel pour lui, c'est le problème du trou dans l'outre, etc. Alors, d'après ça, on peut se demander, mais ok, d'accord, ça veut dire que l'homme est considéré comme, ici il le voit comme une outre, c'est-à-dire comme un contenant du souffle qu'Hachem a insufflé en lui. Il est le contenant. Il y a du souffle. Il souffle dedans. Et ce souffle, normalement, il devrait s'échapper. Et il ne s'échappe pas. Et puis pour se rattendre, c'est ça l'extraordinaire. Alors maintenant, la question qui vient, hein, pourquoi tout à coup on passe sur les anges? Alors, ici, vous voyez, ils ont expliqué, ils ont voulu dire que le paradoxe de la création, c'est que la création, elle est à la fois autonome et à la fois reliée au Créateur. C'est vrai, comme on dit ici, que s'il y avait même la pointe d'une aiguille, etc. Et donc là, bon, on dit que c'est le chat de l'aiguille ou pas, ça ne change pas grand-chose. Je dis que ça ne change pas grand-chose, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on a une grande différence entre la pointe d'une aiguille et le chat de l'aiguille. La pointe de l'aiguille, ça sert à faire des points, enfin ça fait des trous. Le chat de l'aiguille, c'est justement pour mettre un fil et pour fermer les trous. Bon, pour coudre. Le chat, c'est là où on va passer le fil. Donc c'est une notion, c'est, l'aiguille n'est plus toute seule, il y a un fil, il y a une référence dans l'aiguille, l'aiguille appelle le fil en quelque sorte. Et si tu as du fil, ben c'est a priori pour fermer les trous, quelque part. Et donc peut-être que c'est cette idée que il y a les pointes, ce serait ça le. Et puis après, il y a la possibilité de réparer les trous faits par la pointe. Ça veut dire. Peut-être c'est ça qu'il veut dire dans à la fois l'autonomie et la liaison avec le Créateur. C'est comme ça qu'ils ont interprété la chose ici. Alors, bon, les anges montent. On sait que quand on entend les anges, on peut se dire, voilà, les anges, ça fait référence, a priori, les premiers anges dont on, disons, qui sont décrits comme étant des anges, parce que les anges d'Abraham, ils se présentent comme des êtres humains. Oui, il les prend pour. Mais les anges qui se présentent comme des anges, ce sont ceux de Jacob, dans le rêve de Jacob. Ces anges qui montent et qui descendent à l'échelle, c'est-à-dire, on dit, ils montent d'abord, c'est-à-dire les anges qui viennent de la terre et qui vont vers le ciel, c'est les anges donc, qui ont accompagné jusque-là Jacob en Eretz Israël et qui ont fini leur travail, parce qu'il faut d'autres anges pour qu'ils. C'est une autre anaga, une autre façon de conduire le monde quand on est en dehors d'Eretz Israël. Et donc il a besoin d'autres anges qui, à ce moment-là, descendent et prennent le relais des premiers. Donc il y a cette idée que les anges montent et descendent. Et même dans l'image de ces anges, où on dit que les anges qui sont là sont les anges qui représentent les quatre royaumes chez lesquels les Bnei Israël vont être exilés, ils montent aussi et redescendent. C'est-à-dire c'est la montée en puissance d'un royaume et puis ensuite sa chute. Donc il y a cette idée de monter et de descendre. Monter et descendre, quelque part, ça relie le haut et le bas. Il y a une autre lecture de ces anges qui montent et qui descendent. C'est que c'est des anges qui ils voient le visage de Jacob en bas et ils voient le visage de Jacob qui est gravé dans le trône divin. Et il s'étonne il voit d'abord deux visages, quoi. Il s'étonne de la correspondance parfaite entre l'image céleste, l'image d'un visage, et le visage concret de ce type qui est en train de dormir, là. Donc, quelque part, il y a cette identification. C'est vraiment ce qui est gravé dans le trône divin, c'est le visage de Jacob.
Mais on ne sait toujours pas, enfin, à ce stade, pourquoi on passe de
pourquoi les anges apparaissent là.
Mais parce que je crois que l'idée, c'est que si quelque chose va aider Hachem à la création, ce sera les anges. N'est-ce pas? Nous, on explique, par exemple, quand la parole divine, Hachem parle, que la lumière soit, etc. Ça, ce sont ce que nous, on appelle les malachim. Donc, si je peux essayer d'expliquer un petit peu. Comment moi, je m'explique la chose. Je pense, je vois le mot malach, qui est le singulier de malachim, donc, de malachim, comme étant le masculin de melacha. Melacha, c'est un travail. Et dans la Torah, la melacha, c'est un travail plutôt artisanal. Pas plutôt, c'est un travail artisanal, ça veut dire c'est un travail qui est fait avec toutes les règles de l'art. Et par conséquent, le malach, c'est le masculin, donc, c'est celui qui va faire un travail avec toutes les règles de l'art, elles sont de façon parfaite, c'est la parole divine, d'abord, qui est, à la différence d'une parole humaine, qui donne un ordre, alors il y a l'ordre, puis ensuite il y a la réalisation de l'ordre, la parole divine, elle est la réalisation de l'ordre immédiatement. C'est pas qu'Hachem a donné un ordre à qui que ce soit, fabrique de la lumière, d'accord, il a donné un ordre, et cet ordre-là est devenu lumière, en quelque sorte. La parole divine est devenue, elle a puisque c'était une parole de lumière en devenir, quoi, en quelque sorte, elle s'est épaissie en lumière, si vous voulez, cette parole. C'est que la parole d'Hachem est dans le monde. Elle est là, et tout ce qui existe dans le monde n'est que l'habillage de ces paroles, de la parole d'Hachem. Hachem parle, et sa parole existe, elle fait que la chose existe. Bon, ça veut dire, c'est pas que, il n'y a pas la parole et la chose. La parole est la chose. Donc elle est, si vous voulez, l'ADN ou la structure interne de chaque chose, c'est la parole qui est à l'origine de la chose. Parole divine, bien entendu.
Si c'est un texte, ce soit une parole, en fait.
Oui, non, ben, d'abord, c'est marqué, Hachem a parlé. C'est un abus de langage, mais tout ce qui concerne Hachem est toujours un abus de langage.
Il faudrait considérer que la SIA, elle est déjà, par exemple, dans le premier jour, on dit quand même que c'est. Enfin, je ne sais pas ce qu'on dit Hachem, je ne crois pas, mais on fait référence quand même à Elohim qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ici, on serait déjà dans la SIA, c'est-à-dire
Non, ce n'est pas une SIA, c'est toujours. Non, parce que la parole divine, quand j'ai dit qu'elle allait s'épaissir et donner quelque chose, le processus d'épaississement, c'est d'abord, il devient brillant. D'accord? La parole d'Hachem devient brillard, ensuite elle devient Yetzira, elle prend une forme. Si vous voulez, c'est comme cette parole, elle devient brillard, on pourrait dire, elle devient matière, au sens de. Initialement, c'était de l'énergie, quoi, et ça devient matière, puis ensuite cette matière, elle prend une forme, c'est la Yetzira, et ensuite, quand on a. À ce moment-là, elle va exister dans notre monde, c'est-à-dire en. Et donc, c'est pas qu'on est déjà dans la SIA. On est, quand la parole divine, elle passe obligatoirement, c'est comme ça qu'Hachem a créé le monde, elle passe par la Bria et la Yetzira jusqu'à ce qu'elle descende dans la SIA. Bon, c'est un processus qui est engagé avec la Bria et qui commence par Bria, disons, enfin, après l'émanation, après la Torah elle-même. D'accord, il y a cette bria, et c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la création du monde physique, ça on avait déjà expliqué. On parle ici de la création du monde, et on raconte ce qui était le commencement du monde. Non, c'est pas, encore une fois, alors, j'ai pas terminé. Donc maintenant, la parole d'Hachem, on va appeler ça un malach. C'est une convention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dès lors que, puisque c'est la mlacha, quoi, on peut même dire que c'est le côté masculin ou mâle de la mlacha, c'est donc ce qui va fabriquer de la mlacha, quelque part, qui va rencontrer quelque chose qui va permettre de fabriquer la mlacha. C'est ce qui va ensemencer, si vous voulez, la chose, de telle sorte que ça donne une mlacha. Ça donne la résultante sera, quand on regarde, bon, c'est une mlacha. Et donc, si les paroles d'Hachem sont des malachim, alors on comprend très bien que, on dit, mais maintenant, s'ils ont été créés seulement, tout le monde est d'accord, c'est ça qui va être important, tout le monde est d'accord que les malachim n'ont pas été créés le premier jour. Donc ça veut dire que quand Hachem parle au premier jour, il n'y a même pas de malachim, quoi. Il n'y a même pas, c'est quelque chose de complètement incompréhensible, d'accord? Puisqu'il n'y a pas de relais possible. Il n'y a même pas. C'est comme si la parole d'Hachem, elle était nue, elle était uniquement énergie, quoi, si vous voulez. Mais dans cette énergie, il n'y a absolument encore aucune dimension de bria. D'accord? Alors, c'est un peu le contraire, puisqu'on dit le Réchid Bara. Donc ça veut dire que dans la bria, il n'y a pas encore des malachim en ce moment-là. Quand Hachem parle pour la première fois, le Réchid Bara, il n'y a pas de malachim. Et c'est ça tout le travail de dire, maintenant il n'y a pas les malachim. D'accord? Parce que même si tu dis qu'ils ont été créés le premier jour, alors après il y a une opinion qui dit non, mais non, c'est bien plus tard, c'est le cinquième jour. Donc ça veut dire les malachim, c'est très tard si on vous parlez comme ça. Parce que le malach, c'est comme si on disait, s'il avait été créé avant, il n'aurait pas pu se déplacer parce qu'il ne vole pas. Ce serait comme un volatile qui n'a pas d'ailes, dont les ailes ne se sont pas encore développées, il ne peut pas pouvoir voler, ou il est trop lourd, etc. Donc ça, c'est ce qu'on dit. Voilà pourquoi la discussion sur les malachim, elle commence tout de suite à cet endroit-là. Parce qu'à partir du moment où c'est Hachem qui a fait seul, alors on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire seul. Seul, ça veut dire qu'il n'y a pas de malach. Même pas les malachim qui sont...
Ça veut dire qu'il n'y a pas de parole.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de parole performative, si vous voulez. Il y a peut-être une parole encore, mais elle n'est pas encore performative, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
Mais à quel moment, dans ce cas-là, elle s'exprime cette première malach.
Alors le malach, c'est le deuxième jour, il va y avoir, pourquoi? Parce que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, avec les souffles, il fait ses anges. Donc quelque part, il y a les souffles, alors le ruach, le souffle, c'est ça, forme le plafond de tes chambres hautes avec de l'eau, donc c'est l'histoire de la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et puis, avec des souffles, on ne sait pas d'où ils viennent, ces souffles, évidemment, mais il fait ses anges. D'accord? Voilà. Les souffles, c'est aussi... Les anges d'Hachem sont les souffles. Mais d'où viennent les souffles? On ne sait pas. C'est-à-dire, ils viennent d'avant. Alors, on pourrait dire la chose comme ça. Si je devais le dire comme ça, j'ai tendance à expliquer comme ça. La parole divine. Si je la regarde comme une parole, qu'est-ce que c'est qu'une parole? Ben, c'est du souffle. C'est du souffle qui va être haché, etc., éventuellement, qui va faire vibrer des cordes pour chez nous, qui va faire vibrer quelque chose, mais c'est le souffle. D'accord? Donc, une parole qui ne serait que souffle, d'accord? Avant même, avec les souffles, il va fabriquer des anges. De la même manière que l'homme aussi va être fabriqué avec du souffle, un autre type de souffle, probablement, mais, d'accord, donc, d'après celui qui dit qu'ils sont créés le deuxième jour, ah oui, ils sont créés très très vite, mais il y a d'abord une parole, enfin, la parole d'Hachem, il faudrait la voir comme, si je voulais zoomer sur l'histoire de la parole est d'abord un souffle, puis ensuite elle devient parole. D'accord ? Et donc, elle ne deviendra parole, c'est-à-dire au sens de malach, que plus tard. Avec les souffles, il va fabriquer les malachim. Pardon ?
Ça veut dire qu'il y a un avant des anges, quoi.
Il y a un avant des anges. L'ange n'est pas, justement. Tout le problème, c'est l'ange n'est pas. Donc, comme ils sont aussi fabriqués avec des souffles, ben, il y a un des souffles avant eux.
Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait interpréter, justement, là, je crois que c'est après le Shibara, une souffle de Hachem planait au-dessus de...
Des abîmes. Il y a un souffle, mais ce n'est pas encore une parole. C'est comme si, vous voulez, on sait très bien que pour passer, pour fabriquer une parole, il va falloir hacher le souffle. Parce que le souffle, c'est continu. D'accord ? Le souffle, c'est un truc continu. Et pour pouvoir parler, d'accord, il faut hacher. Il faut faire des scansions, etc., qui vont permettre de faire des sons. Puis après... Ces sons-là, on va en regrouper certains, puis on va hacher de nouveau pour fabriquer des mots, pardon. Puis ensuite, ces mots, on les met, si tu mets les mots, tu les mets tous les uns avec le. Ben, si tu veux maintenant faire une phrase, il va falloir hacher les mots pour fabriquer des mots distincts, donc une phrase. Puis évidemment, après, il faudra continuer de hacher, parce que si tu veux quand même séparer les phrases les unes des autres. Puis les phrases... Après, tu vas hacher hacher encore pour fabriquer des paragraphes éventuellement. Il y a dans la Torah deux sortes de paragraphes. Les paragraphes où on va à la ligne, ce que nous on appelle à la ligne, quoi, le paragraphe. Et puis il y a des faux paragraphes qui sont simplement un ensemble de blancs sur 9 lettres. Il va y avoir. Du blanc, mais on reste sur la même ligne. D'accord ? Il y a une ligne qui commence, du blanc, qui après on continue. Donc c'est une espèce de mini-paragraphe. Donc on voit très bien, c'est chaque fois, il faut, l'escension, sans arrêt, il faut la concaténation, si vous voulez, comme on dit, pour à des niveaux différents. Mais initialement, c'est un souffle. Ruach Elohim, c'est un souffle qui est partagé en rien du tout. C'est un souffle continu. Il plane. L'image est très parlante, pour le coup. Ouais. Et donc, après, il va prendre ces souffles-là et il va en faire des malachim. C'est-à-dire, il va en faire des paroles divines. D'accord ? Et ces paroles divines, elles sont très hautes encore. Ces paroles divines, elles vont fabriquer de la bria.
Bereshit Bara. On peut remplacer le mot ange par parole divine.
Oui, le mot. Oui, les anges, pour moi, ce sont des paroles divines. Mais qui sont performatives, qui sont plus ou moins. Enfin, performatives à des niveaux différents. Au niveau. D'abord, au tout début, c'est Bria, puis après, c'est. C'est-à-dire, ça devient de la matière, un peu. Si vous voulez, c'est E égale MC carré, quoi, si vous voulez, un truc comme ça. Et puis après, ben, vous avez, ça donne de la matière. C'est l'énergie qui devient, le souffle qui est une énergie, quoi, qui devient matière. Ben, cette matière, ensuite, il faut lui donner une forme. Bon, ça, c'est la Yetzira. Et puis cette Yetzira, hein, elle va devenir, ça va prendre non seulement une forme, mais encore des formes particulières, etc. Et ça va devenir des choses de notre monde. Le monde de la Sia dans lequel nous sommes.
Et quand le texte dit au début que Dieu, toi, tu es seul, tu es là-dessus.
Les grands, oui.
On a l'impression, pourtant là, à la limite, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Tu es seul. Il n'y a rien qui s'est passé à ce stade.
Non, au contraire, il dit tu as créé seul. Oui. Il y a la création. C'est-à-dire que la bria, c'est une bria qui se fait. Quand Hachem est seul, c'est-à-dire c'est les souffles, la bria c'est le souffle. Et ensuite, quand tu vas créer, enfin, le début de la bria c'est les souffles. Et puis dans cette Ensuite, il y a la matière qui va nous donner les malachim, qui va donner, etc. Le Ramban aussi, il dit, le premier jour, c'est quelque chose, Hachem, il a créé la hilé des Grecs, ça veut dire une espèce de un truc, je ne sais pas ce que c'est, quoi. C'est, aujourd'hui, je dirais, pour avoir une image, je dirais, c'est l'énergie. Okay, de l'énergie. Mais l'énergie qui est encore...
Indéfinie.
Pardon ?
Indéfinie.
Oui, mais, par exemple avec l'image des cellules souches. Quoi. C'est une énergie qui n'est ni encore transformée en chaleur, ni en quoi que ce soit d'autre.
Et juste après, donc, il dit il y a l'homme puis les anges. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'après...
Non, il n'y a pas l'homme et les anges. Les anges sont avant l'homme.
Le texte.
Oui, c'est ça, c'est pas tout de suite. Ensuite, le texte.
De l'homme comme l'outre, et puis après, les anges. Mm. C'est-à-dire que tout de suite, on a l'impression que cette bria rend nécessaire qu'il y ait des auxiliaires, des récipients, des associés.
On a l'impression que c'est des mises en relation, c'est-à-dire parce que si l'homme, il y a le souffle qui est indépendant, il est à la fois autonome et en même temps en lien. Les anges sont aussi en lien entre faisant le va-et-vient.
Parce que les anges, c'est rien d'autre que les souffles. Voilà. Donc, ils ont les mêmes mouvements que les souffles, si vous voulez. Mais seulement avec ça, c'est, on peut dire, c'est en deux dimensions. Dans deux dimensions du temps de l'Agmara, pour nous, c'est une seule dimension. En haut et en bas. Maintenant, si tu veux que ça se détende, si tu veux que, etc., là, il faut voler. Ça, c'est ce que dit celui qui dit, on n'a pas pu les... Puisque leur fonction, ça va être d'agir dans le... faire exister le monde et l'agir dans ce monde, il faut qu'ils puissent se déplacer. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement haut et bas, il faut aussi qu'ils se déplacent horizontalement, si on peut parler comme ça. Et pour qu'il y ait des déplacements horizontaux, alors c'est pour ça qu'ils ont des ailes. C'est cette idée des ailes. Et donc, ce qui a des ailes, ça a été créé, la notion de voler, en quelque sorte, qui est, où ce sont des créatures qui volent, c'est le cinquième jour. Le souffle qui plane, c'est-à-dire que c'est... Il ne vole pas encore. C'est pas que voler, c'est pas la même chose que planer.
Oui, mais il y a quand même très grande différence entre le deuxième et le cinquième jour dans ce cas-là. Parce que ici, on ne peut plus les considérer simplement comme des souffles, le cinquième jour. Il me semble que le cinquième jour, il y a les végétaux, il y a les animaux.
Oui, mais il y a plein de choses qui ont des dimensions, c'est-à-dire que des choses qui peuvent peuvent partir dans toutes les directions. S'étend, disons, dans l'horizontal. Alors, il y a celui qui s'étend horizontalement, parce qu'il court sur le... Il court, il rampe, etc., sur le sol. Puis, il y a celui qui se déplace en volant. Donc, le cinquième jour, c'est le jour de la création de ce qui se déplace. Après ça. Et comme les malachim... Le malach, c'est quelque chose qui se déplace, par définition, parce que la parole d'Hachem, elle va dans tous les sens. Bon, ben, il faut... Donc, il y a celui qui dit, ben, l'essentiel d'un malach, c'est de pouvoir... il a une notion... Rabbi Yochanan, il a une notion très... plus abstraite d'un malach que Rav Hanina. Pour lui, le malach, c'est le premier épaississement du souffle. D'accord ? Alors, il fait comme le souffle. De même que le souffle, il monte, il descend. D'accord ? Mais qu'a priori, c'est ça, puisque le souffle dont on parle, c'est le lien entre la créature et le créateur. Donc les malachim sont des liens entre le créateur. C'est ça qui est important à voir. Et qu'ensuite, le créateur leur donne des fonctions d'extension, en quelque sorte. Ça c'est Rav Hanina, lui dit non, pour moi le malach il n'a pas pu être créé avant
ça
que
serait comme les malachs, ça serait comme une parole, en fait comme une énergie agissante, en fait. Une énergie ciblée.
Performative.
Une énergie ciblée, en fait. Oui, performative. Ouais.
Donc, disons, on commence un peu à voir ce qu'ils veulent dire ici.
Est-ce que, du coup, l'exemple de l'homme qui a un souffle en lui, est-ce que c'est pas une façon aussi de se référer au séjour de la création, en partant au sixième jour et puis, parce que des questions du deuxième jour, puis du cinquième jour, on essaie de. J'ai l'impression
que. C'est possible qu'on dit que l'essentiel de la création, c'est l'homme. Donc l'extraordinaire, c'est ce qui se passe avec cet homme. Donc c'est le fait que, par exemple, ce n'est pas dit sur les malachim qui sont, on ne dira pas nekavim, nekavim, chalolim, chalolim, sur les malachim. Les malachim n'y vont pas aux toilettes. D'accord ? Aller aux toilettes, ça veut dire t'es créé avec des ouvertures et des creux, etc. Et donc il y a cette idée de. L'idée du trou dans l'outre. Le trou dans l'outre, on ne le voit pas chez un malard ordinaire. On le voit chez l'homme. On le voit aussi chez les mammifères, etc. Mais alors, ça, c'est le côté extraordinaire. Ça, c'est ce que nous disons dans la bracha. Un bracha sur les toilettes, d'accord, on dit, tu as créé cet homme, le kavim, avec des trous, des creux. Et si jamais ça fonctionnait, ça ne s'ouvrait pas, ça ne se fermait pas comme il faut, ben on n'existerait pas. D'accord ? Et ensuite, on va dire que c'est Pélé. D'accord ? Ça veut dire Pélé, c'est extraordinaire. Niflaot. Pélé, c'est les lettres du mot Aleph à l'envers. Aleph, si vous écrivez Aleph, Lamed P, si vous lisez P, Lamed Aleph, ça fait Pélé. Donc le 1. L'unité par excellence, c'est Pélé. Un truc incompréhensible.
Pourquoi ?
L'unité divine, c'est une unité qui n'est pas comparable à quoi que ce soit d'autre qui est nommé un. Le un en question, de l'un du chemin, là, quand on dit Echad, ça n'a rien à voir, c'est pas pas l'unité du corps, c'est pas. C'est pas le 1 de la numération, etc. C'est autre chose. C'est ça Pélé. C'est ça extraordinaire. Et donc, ce qui est extraordinaire, dit le Remo, quand il commente la bracha sur les toilettes, enfin, quand on était aux toilettes, il dit, ce qui est extraordinaire, c'est que la neshama, complètement spirituelle, elle dépend du fonctionnement le plus basique de l'homme. C'est-à-dire, elle dépend du fait qu'on sache aller aux toilettes ou pas, qu'on puisse aller aux toilettes ou pas. Parce que si ça se bouche, l'homme, il meurt. C'est un peu un paradoxe, si vous voulez, de l'importance de ces déchets de corps humain, en fait, de ce qu'il faut éliminer. Et pour ça, l'important, c'est qu'il y a des trous. Il y a des trous, mais ces trous, ils sont sélectifs, en fait. Ces trous, ils ont des sphincters, en général, qui vont gérer le... Ça s'ouvre, ça se ferme, etc. Alors, effectivement, quand il y a un trou et qu'il n'y a pas de sphincter dessus, ben, c'est quand on tire sur quelqu'un et une balle qui nous traverse, il y a un trou, et il le sent, il s'arrête pas. Enfin, suivant où on arrive. Donc, on voit très bien que là où Hachem a... Il a mis qu'il y avait des trous avec des creux, etc., mais il a mis les sphincters.
Et je pense très bien compris votre explication sur Aleph inversé avec B.
Quand vous écrivez le mot Aleph.
Parce que 1 Aleph.
Non, non, oui, bien sûr, Aleph c'est 1. Mais quand vous écrivez le mot Aleph, comment on l'écrit ? On écrit Aleph, Lamed, P. Oui. Non, Li, P, Lamed, Aleph, ça fait Pélé.
Ah ouais.
Non, non. Ça vient dire que le 1 dont on parle n'est pas le 1 de l'unité de mon corps qui est composé.
Mais Pélé.
Mais c'est Pélé complètement, c'est complètement incompréhensible.
C'est pas ce que c'est.
Ah, donc vous faites bien référence ensuite au Aleph en tant que 1.
Oui, mais c'est un 1 particulier. C'est un 1 C'est pas le 1 de la numération, c'est pas le 1 du corps, c'est pas le 1, c'est un 1 qui n'existe pas.
Mais est-ce que c'est le 1 de Echad quand on dit
Shem? Oui, c'est ça. Mais ce qu'on veut dire Echad, d'abord c'est un paradoxe que qu'on dise Echad avec des lettres, avec plus, avec trois lettres, quoi. D'accord, c'est, on dit le 1 avec trois lettres.
Pourquoi vous dites ça?
Bah, à Echad, ça s'écrit 1. Quand je veux dire 1, j'ai besoin de trois lettres.
Ouais.
Bah, priori, ou encore en français, vous dites 1 avec deux lettres.
Oui.
Bah, on pourrait quand même imaginer que quand je veux dire 1, je puisse le dire avec une seule lettre, non?
Il faut trouver un mot avec
un chiffre, en tout cas.
Il faut trouver un mot avec une lettre.
Hein, un mot avec
une lettre.
Alors, y a un, enfin, je connais un seul mot, et encore, dans la parasha d'Azinu, Al Hashem Tigmolozot, il y a une discussion pour savoir si c'est Al Hashem ou bien Ha. C'est un mot avec une seule lettre, le He. Al Hashem Tigmolozot. Bon, ça c'est vraiment à côté. Et, donc, on comprend, si on veut, d'après cette image de l'outre et du trou, etc., donc qui introduit la notion de l'extraordinaire pour ce Chiyabar, ce Tankum Bar Chiya, pour lui, l'extraordinaire, c'est le problème du souffle. Donc, c'est quand tu regardes le souffle, et donc c'est ça l'extraordinaire. Il n'y a que Hachem qui peut faire un truc pareil. Mais pour les autres, l'extraordinaire, c'est peut-être pas obligatoirement le problème du souffle. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que tu as tout créé tout seul. C'est l'idée que par la suite, ça fonctionne avec des malachim, mais au moment de la création, tu es tout seul. Et par conséquent, alors, ce qu'il faudrait comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on présente cette situation où Hachem est tout seul en disant d'abord qu'il est tout seul à être loué. D'accord ? On commence par le fait de le louer avant de dire qu'il était tout seul à la création. D'accord ? On dit le roi, d'accord ? Il est loué, mais on le loue avec ses serviteurs, parce que les serviteurs ont pris une partie ont fait une partie du boulot. Mais Hachem, il est loué tout seul, parce qu'il a fait tout seul. Mais on devrait dire, il a fait tout seul et c'est pour ça qu'il est loué. D'accord ? Pourquoi on met d'abord en avant le côté qu'on le loue seul ?
Je veux dire, pourquoi on commence par donner l'exemple du roi pour essayer de ça ?
Non, le roi, il faut bien qu'on comprenne le roi, parce que si on ne m'explique pas que le roi, comme on l'a déjà vu avant... que le roi, justement, c'est une approximation d'Hachem, parce que nous, on perçoit Hachem comme notre roi, mais, justement, voilà une grande différence, mais le roi aussi, le roi, justement, il fait pas les choses tout seul. Et donc, on peut pas louer le roi tout seul, en fait. Les autres, ils prennent une partie des louanges aussi, c'est un problème de remerciement. D'ailleurs, c'est par exemple, on voit très bien, c'est culturel. Quand vous regardez, prenez un bouquin américain, la page des remerciements, c'est comme ça. En France, ce qu'il y a des remerciements, c'est la compréhension qu'on veut. Mais là-bas, ils remercient tout le monde. Le fabricant de papier, l'éditeur, etc. Tout le monde. Mais... Et quel que soit le bouquin, un bouquin de science, un bouquin de pensée, tout ce que vous voulez, toujours il y a une liste des remerciements chez les Américains. Les Français, je ne sais pas. Ça commence un peu, ils copient un peu. Sans doute que ça faisait bien de remercier, les remercier aussi, mais... Donc, alors pourquoi on passe... par la louange d'abord. C'est ce qui nous frappe, c'est comme si, finalement, nous on le loue parce qu'on sait qu'il a fait tout seul. Pourquoi on commence par dire, justement, que Noeg Sheba Olam, le roi Mitkales Bamdina. Et tous les gdolés de la Medina, mitkalsimimo. Ils sont loués en même temps. Malakadosh Baruch Hu Enoken. Ulevado bara et haolam. Ulevado mitkales. Vous voyez, on a retourné la situation. Le Midrash, il dit, il fait la différence. Chez le roi, on regarde, on lui fait les louanges, mais en fait, on voit bien qu'on est obligé d'en donner aussi aux autres, parce qu'il n'a pas fait le boulot tout seul. Mais Hachem, c'est le contraire. Comme Hachem a fait le boulot tout seul, le vado, Amitkales Baolam, le vado. Mouitader Baolam, il est le seul à pouvoir s'enorgueillir de ça. Yitzhok.
Bonsoir papa.
Mazel Tov.
Bon, ça va?
Ouais, ça va, Mazel Tov. Ça va? Je peux te rappeler un peu plus tard, je suis encore en chiot.
D'accord, ouais.
Ok, merci, bye. Bye. Il est devenu grand-père.
Ah, vous avez entendu dire Mazel Tov, vous vous demandez pourquoi. Donc vous, arrière-grand-père.
Oui, mais moi, c'est une histoire.
Donc
lui, c'est Mazel sa première fois. Lui, c'est la première fois qu'il devient mon grand-père. Bon, bon Hachem, disons, ça m'impressionne beaucoup plus que lui devienne grand-père que moi de devenir arrière-grand-père.
T'es un jeune grand-père.
Ouais. Bon, il a des sœurs qui sont déjà grand-mère. Bon, on est plus jeune que lui aussi, mais bon. Oui. Donc on voit pour Hachem, on a inversé la chose. Et donc du coup arrive Rav Tanhuma qui a rien dit, qui avait dit la première chose, il a amené son verset. Et puis, c'est comme si l'autre, il lui avait coupé la parole, et donc, il a presque le même nom que lui, et il raconte toute sa petite histoire, etc. Et puis après, l'essentiel, c'est ce que je voulais dire, dit Rav Tanhuma. Je voulais donc dire qu'effectivement, Hachem est seul. C'est seul. C'est cette solitude, cette unicité d'Hachem qui est importante. Ata levadcha barata et haolam. Toi seul, tu as... Et donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est pas qu'Hachem ait créé le monde tout seul. C'est qu'il y a des gens pour reconnaître qu'il a créé le monde tout seul. Ata, le vatra, barata, c'est nous qui disons. Qu'Hachem, Bereshit, bara, Elohim, bon, c'est marqué dans le verset qu'il est tout seul. A priori. Et le verset ne nous dit rien, mais, d'accord. Mais que nous ayons intégré au point de quand on dit sa louange, de louanger que lui tout seul.
Mais où vous voyez ça dans le texte? C'est
à... Le Rabbi Tanhuma, tout à la fin.
Ah oui, lui tout seul.
Il dit, lama, pourquoi? Toseniflot, lama, pourquoi? Ki ata Elohim levadecha. Ata levadcha barata et haolam. Tu es seul. Et tu es le seul à avoir créé le monde.
Mais vous avez dit, ce qui est important, c'est pas qu'il soit seul, ça, mais c'est que nous...
Mais que nous, c'est pour ça que ça finit. Il dit, Ata levadcha, toi tu es tout seul. Mais l'important, c'est Ata levadcha barata et haolam. Mais qui dit ça? Nous. Et c'est notre louange.
Mais reste toujours quand même, ici, c'est d'ailleurs une marche qui ne tranche pas pour cette histoire du deuxième ou du cinquième jour.
Non, mais on va pas trancher. De toute manière, vous avez bien vu ce qui est écrit. C'est écrit, ce qui est important, dit l'Italien, là, le Liani, là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'important, en tout cas, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina sont d'accord, qu'en tout cas, le premier jour, il est tout seul, ouais. Il sait rien, il a rien créé. Ok, c'est ça l'important. D'accord? Donc, le premier jour, c'est... Tout le monde est d'accord. Ils n'ont pas été créés le premier jour. Donc, ce qu'Hachem a fait au premier jour, il l'a fait tout seul.
Mais néanmoins, comme c'est pas tranché par le...
Mais non, excusez-moi, c'est pas nécessaire du tout de trancher, on s'en fiche.
Oui, mais dans ces cas-là, si vous voulez, si c'est le cinquième jour, ça voudrait dire que Hachem crée
Non, ça c'est pas marqué. C'est pas dans le. C'est marqué que les malachim ont été créés le cinquième jour, parce que, ou on peut même dire, pourquoi je dis qu'ils ont été créés complètement, parce que jusque-là, ils ne pouvaient pas bouger. C'est-à-dire qu'ils n'étaient que, en quelque sorte, une émanation du souffle. Le souffle monte et descend, ben eux aussi, comme ils sont le premier passage du souffle à quelque chose d'un peu plus sophistiqué ou un peu plus matériel, ben voilà, ben eux aussi, bon.
Je sais que c'est bien compliqué, parce que ces premiers jours-là, ici, on est plutôt dans la brouillard, j'ai bien compris. Alors, quand on parle de végétaux, je crois que c'est le troisième jour, les végétaux, je crois.
Oui, alors.
Ben, on est dans la matière, déjà.
Donc, non, mais c'est la matière fondamentale du végétal. Oui. Je ne sais pas, c'est l'ADN de. Non, non, pas du tout, c'est pas encore ça. C'est un végétal, c'est aussi d'abord une graine qui pourrit, etc. C'est déjà le végétal en devenir, si vous voulez. Alors qu'il n'y a encore rien. D'accord ? Non, parce que vous pouvez dire, hein. C'est tout, je vous serai exclu, mais ça ne fait rien. Voilà, on va s'arrêter là. Pardon ? Merci. Ok, dans quoi ?